vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Au Québec, il est parfois difficile d'avoir accès à des soins de santé. Le virage numérique de la santé semble faire du surplace. Rappelons que certains professionnels communiquent toujours par fax. L'arrivée prochaine du dossier de santé numérique vise à transformer les pratiques cliniques axées sur la qualité des soins et des services selon le gouvernement. Le 9 mai prochain, il sera tout d'abord implanté au CIUS du nord de l'île de Montréal et au CIUS de la Mauricie et du centre du Québec. Les médias rapportaient récemment que c'est l'ex-conseiller politique du ministre des Transports et ancien responsable du dossier SACLIC, Alain Généreux, qui va être responsable de ce dossier, ce qui alimente quelques inquiétudes. Alors, comment ce nouvel outil peut-il changer les choses pour que les professionnels de la santé et aussi pour les patients? Nous en parlons tout de suite. Ne bougez pas. À Je vote pour la science aujourd'hui, nous nous intéressons au dossier de santé numérique, l'outil de saisie de données de consultation en ligne du dossier clinique des usagers utilisé par les professionnels. Pour en parler, je suis en compagnie de Philippe Jouvet, pédiatre intensiviste au CHU Sainte-Justine et professeur de pédiatrie à l'Université de Montréal. Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Je suis aussi en compagnie de Myriam Lavoie-Maure, professeure adjointe à l'École de communication sociale de l'Université Saint-Paul. Bonjour.
Bonjour à vous.
Et de Benoît Eppel, médecin de l'Estrie. Bonjour.
Bonjour.
Avec la pandémie, la nécessité de se faire vacciner, nous avons vu l'implantation des rendez-vous en ligne et des suivis médicaux avec le carnet Santé Québec. Le 9 mai prochain, c'est au tour du dossier de santé numérique, le grand chantier du plan santé du ministère de la Santé et des Services sociaux, d'être lancé au sein de deux premiers CIUS. Alors, Docteur Eppel, comment fonctionne ce logiciel d'EPIC System? Est-ce que c'est avant tout pour centraliser les informations médicales, pour peut-être faciliter le partage de données en santé?
Mais effectivement, c'est le grand avantage de ce type de système-là, c'est d'avoir une espèce de centralisation de la donnée qui permet à différents cliniciens et aussi du côté de la recherche d'ailleurs, mais à différents cliniciens, d'avoir accès à l'information des patients. Et actuellement, au Québec, les données sur les patients sont fragmentées entre hôpitaux. Maintenant, c'est des CIUS et des CIUS, mais entre hôpitaux, entre cliniques, entre CLSC, entre cabinets médicaux, on fragmente les dossiers du patient dans différents dossiers qui ne sont pas connectés entre eux. EPIC permettrait effectivement d'avoir une centralisation de la donnée pour avoir accès à l'ensemble du donné d'un patient, peu importe il consulte tout. Alors, par exemple, des patients qui verraient leur médecin de famille, verraient leur dossier hospitalier davantage accessible si ces gens-là ont, par exemple, ont consulté, je pense à la grande île de Montréal. Si vous consultez dans différentes salles d'urgence, si vous êtes hospitalisé dans un hôpital et que vous allez voir votre médecin de famille dans un CLSC, pour qu'il y ait une connexion de la donnée entourant le patient et qu'elle soit accessible. Actuellement, c'est très fragmenté et c'est partiel. Ce qui est connecté présentement, c'est très, très partiel. On pense au dossier Santé Québec, le DSQ, qui partage, par exemple, des données sur ce qui est servi à la pharmacie communautaire, donc la pharmacologie, la pharmacopée du patient, certains bilans qui sont faits dans différents endroits et l'imagerie médicale, c'est à peu près tout. On n'a pas accès, par exemple, aux notes médicales, à la consultation à l'urgence, à un résumé d'hospitalisation. Et ça, c'est très, très utile lorsqu'on voit des patients. Évidemment, c'est plus sécuritaire d'avoir l'ensemble des données et ça évite aussi la duplication, de refaire des bilans sachant pas ce qui a été fait ailleurs ou sachant pas le raisonnement qui a été fait par un autre médecin ailleurs pour essayer ou pas tel médicament, par exemple. Alors, actuellement, c'est fragmenté. Ça permettrait de réunir l'ensemble de l'information patient et de la rendre accessible. Ce qui serait extrêmement utile.
Oui, du côté de la mise en place de ce système numérique, peut-être, professeur Lavoie-Mort, pourquoi ça semble difficile de mettre en place un système centralisé? Est-ce que c'est parce que ça coûte cher?
En effet, ça coûte extrêmement cher, mais c'est aussi extrêmement complexe. Le système de santé du Québec, il n'est pas seulement gros, mais il contient aussi plusieurs dimensions, c'est-à-dire que il y a les hôpitaux, mais il y a aussi les CLSC, il y a les centres jeunesse, tout ce système qui à la fois du côté de la prévention et du côté de la guérison apporte une complexité là qui se voit pas par exemple aux États-Unis où un système a été créé pour les systèmes hospitaliers. Epic System a aussi été implanté en Angleterre où ils ont aussi un système public qui s'apparente à celui du Québec et au Danemark. Et dans ces deux endroits-là, ce qu'on a vu, c'est que c'est un système qui était très complexe, qui a été très coûteux à implanter, qui a demandé beaucoup d'apprentissage, mais qui a aussi demandé par la suite beaucoup d'adaptation de la part des personnes avec qui ils travaillaient. Donc, ce qu'on a pu observer dans ces systèmes-là, c'est que ça a pris 2 ans avant que le niveau de performance, d'efficacité du travail sur le terrain retrouve ses niveaux normaux. Donc, ça l'a pas, de ce qu'on a pu voir, là, on voit pas nécessairement des effets d'augmentation de l'efficacité, mais pendant une certaine période, ça ralentit l'efficacité. Donc, ça vient imposer des nouvelles barrières dans le fonctionnement au travail.
Oui. Docteur Jouvet, je vous vois hocher la tête. C'est quoi les défis et les embûches d'un tel système? Est-ce que ça va prendre du temps? Là, on parle d'implanter dans 2 CIUSSS au mois de mai, mais ça va prendre du temps pour justement répandre un petit peu ce système et qu'il se parle. C'est ça le gros défi, j'ai l'impression.
Mais c'est ça, l'informatisation d'un dossier, c'est on change les processus. C'est-à-dire la chose qu'on avait l'habitude de faire sur un certain mode, la première, on la voit, c'est que la donnée étant disponible partout, on n'a plus besoin d'aller voir le dossier au lit du patient. Donc, au lit du patient, il y a plein de soignants qui viennent, ils discutent un peu entre eux. Bon, il faut aussi respecter les règles d'hygiène et tout, donc ça peut créer aussi des effets indésirables. Mais donc on va pouvoir aller le regarder ailleurs,
dans son bureau.
Donc ça diminue un peu les communications à ce niveau-là, donc il faut revoir comment est-ce qu'on échange. Ça c'est un des processus, mais il y en a beaucoup qui sont modifiés. Ne serait-ce que le processus du médicament. Il faut le prescrire sur l'informatique. Ensuite, la pharmacie le saisit, le ramène. Comment on réorganise ça? Donc, c'est une réorganisation du travail. Et la réorganisation du travail, on le sait tous, quel que soit notre métier, ça prend de la formation.
Du
temps, de la formation. Oui. Alors, la première étape, c'est la phase de configuration. Donc, c'est celle qui est en train de se dérouler, qui pratiquement fini pour les 2 CIUSSS tests, mais qui va se continuer. La configuration de l'outil EPIC est quelque chose qui est dynamique et qui va se poursuivre dans le temps sur les décennies qui viennent. Donc on va commencer avec un certain outil, puis on va le bonifier. Par analogie, le dossier que j'avais implanté dans le service, on a eu 2 ans
à
Sainte-Justine. Donc on a eu 2 ans de configuration de l'outil. Puis ensuite, on a fait une formation. Cette formation, elle s'est étalée sur 3-4 mois.
Ouais.
Et au moment où on a implanté l'outil, on a réduit un tout petit peu, on a réduit un peu notre activité pour être sûr que l'ensemble de la prise en charge que l'on faisait était correcte, puis ensuite on a pu la réaugmenter.
Qu'est-ce que ça change pour des soins pédiatriques? Est-ce que ça change quelque chose?
Que ce soit des soins pédiatriques ou adultes, ça change la façon de travailler. J'avais eu des réflexions d'infirmière, dit, mais si je ne mets plus de notes, qu'est-ce que je vais faire? Donc il va falloir taper par l'ordinateur. J'avais discuté avec un médecin, parce qu'au début, nous, on était informatisés, puis pas le reste de l'hôpital, donc il fallait qu'on imprime les notes. Alors j'avais un médecin qui me dit, comment? Vous me demandez de taper sur l'informatique,
fax,
puis ensuite, il faut que je l'imprime pour que le patient sorte avec. Donc bon, il y a plein de défis comme ça, mais quand c'est un service, bon, c'est un petit îlot. Là, on parle de tout le système de santé, donc il faut y aller progressivement. Puis en effet, il est probable que ça diminue les performances en termes de quantité de quantité de soins. Et la qualité, c'est ce qu'on va toujours chercher à maintenir. Et donc, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir un système trop en tension, parce que si on réduit l'offre de soins, ça devient difficile.
Le système est déjà en tension, justement. Docteur Eppel, ce système-là devrait permettre d'uniformiser les dossiers des données, mais il faut justement, et ce que le docteur Jouvet l'a souligné, il faut penser aussi en termes de formation du personnel médical, n'est-ce pas?
Ben oui, tout à fait. Puis tout ça sera progressif, hein, parce qu'on s'entend que EPIC vise à terme à remplacer non pas quelques systèmes, mais des centaines de systèmes différents. On parle de dossiers papier, mais plein de logiciels informatiques qui sont utilisés dans plein de secteurs. Là, moi, quand je suis, par exemple, dans ma clinique, au bureau, j'ouvre ICLSC, j'ouvre RCIPA pour la personne âgée, j'ouvre mon dossier santé numérique, j'ouvre le dossier numérique de l'hôpital, j'ouvre 5-6 affaires. Et il y en a des centaines comme ça. Donc, à terme, effectivement, c'est un gros changement, c'est très complexe. Et ça, il va y avoir ce qu'on appelle une gestion de changement. Là, c'est une grosse gestion de changement. Et je vous donne un exemple. Nous, ici, je suis à Sherbrooke, je suis à l'hôpital présentement. On a un système. On est quand même au Québec assez chanceux. Nous, on a un système informatique intra-hospitalier depuis plusieurs décennies, là, qui a évolué au fil du temps. Et depuis peu, dans la dernière année, nous écrivons uniquement nos notes médicales à l'ordinateur. C'est même plus imprimé. Donc, tout est numérique plutôt qu'être numérisé. Et c'est venu, et donc c'est un changement, vous allez me dire, assez simple, mais qui est venu quand même avec une gestion de changement qui est longue à faire. Alors, il y a les gens qui vont adopter précocement les techniques, qui sont contents, qui vont se familiariser rapidement avec l'outil, et d'autres qui vont plus difficilement sortir de leurs pantoufles, qui sont pas, par exemple, habitués à taper, qui vont le faire moins vite, qui vont effectivement diminuer un peu leur débit de travail. Donc, il faut s'attendre à ça. Donc, il y aura des soon adopters, puis il y en aura plus tardivement. Et ça, c'est normal. Ça fait partie de la gestion du changement, mais ça ne doit pas freiner le changement, parce qu'on doit y aller. On ne peut pas rester dans nos vieilles méthodes actuelles. Mais il va falloir accompagner les équipes. Et effectivement, il y a une période de transition plus ou moins longue où il y aura des embûches, où on va peut-être un peu diminuer la productivité, mais c'est un passage obligé pour y arriver.
Entendu. Professeur Lavoie-Mort, de votre côté, est-ce que ces embûches-là, est-ce que c'est parce que ça risque de coûter cher ou que c'est un petit peu titanesque comme travail à faire? Qu'est-ce que vous voyez?
Ici, je crois qu'en effet que ça risque d'être titanesque dans la mesure où ça risque d'être beaucoup de changements ou de plus là, on peut souvent on a tendance à imaginer que la numérisation ça vient nécessairement avec une accélération des flux de travail avec une meilleure efficacité, alors que ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, il finit par avoir un transfert. Là, on le voit déjà, il y a eu... On peut penser, par exemple, un exemple très simple, là, par exemple, le courriel. On donne l'impression que le courriel permet, de par rapport à la poste, d'accélérer le travail, mais finalement, ça finit par augmenter la charge des échanges, parce que plus on peut avoir d'échanges, plus on en a. Un des problèmes que moi je vois dans EPIC System qui était envisageable puis qui semble se manifester, c'est qu'on a un modèle qui vient des États-Unis, qui a été réfléchi dans un contexte très très centralisé, une administration privée où il y a une longue chaîne de surveillance où les soignants sont pas nécessairement aussi autonomes puis les équipes sont pas de professionnels sont pas nécessairement réfléchis selon la même philosophie du travail qu'elle est au Québec et qui peut augmenter et qui petit peu augmenter la bureaucratie. Puis là, c'est sans parler aussi des autres enjeux là, par rapport à la question de la prévention qui pourrait émerger. Mm-hmm. Mais ça, c'est un des enjeux qui est à surveiller, mais qui est aussi très, très prévisible.
Oui, oui. Docteur Jouvet, vous êtes un spécialiste des systèmes d'aide à la décision clinique, notamment par l'IA. En 2013, vous avez implanté en pédiatrie le système de documentation et d'aide à la décision clinique lié à la réanimation et l'anesthésie, l'ICCA de Philips. J'aimerais que vous nous parliez justement un petit peu de ce système-là et peut-être comment ça a été implanté chez vous. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Et est-ce que ça peut justement nous apprendre des choses sur le gros système qui va être implanté ici?
Oui, alors c'était un dossier santé numérique, oui, pour les soins intensifs pédiatriques, et mm-hmm, donc qu'on a implanté dans le service. Donc, comme je vous l'ai dit, la première chose, c'était de choisir le dossier. Donc, j'ai fait un peu le tour des différents dossiers qui existaient dans les unités de soins intensifs pédiatriques à travers le monde. Notamment, j'étais en Suisse, aux États-Unis, puis en France. Et celui qui ressortait, c'était celui-là, vous appelez ICCA, donc qui est fabriqué par une compagnie qui est Philips Medical, pardon.
Mm-hmm, qui est français.
La compagnie est implantée, ouais, en France, mais elle est d'origine US au départ.
Ah, ok, donc c'est comme le nôtre, finalement, ça vient des États-Unis, c'est ça.
C'est ça, voilà. Mais tous ces dossiers, ils sont configurables, c'est-à-dire ils arrivent avec une page à peu près blanche, il y a quand même quelques règles qui sont insérées dedans. Mm-hmm. La plus importante à regarder, c'est le prescripteur, parce que c'est le noyau central du dossier. C'est à partir de là où on dispatche l'ensemble des tâches pour tous les soignants. Donc ce prescripteur était très performant pour le Philips Medical et il est encore actuellement. Et donc après, on le configure pour faire coller les processus du service avec l'outil. Dans la partie EPIC, ce qui est pas mal non plus, c'est qu'il y a des systèmes d'aide qui vont détecter des risques d'infection, des risques de pression ou différentes choses qui sont des outils qui vont être additionnés dedans. Mais c'est sûr qu'il faut se familiariser avec l'outil et ça prend du temps.
Oui, c'est surtout ça finalement qui prend ce temps-là. Docteur Eppel, le Québec est-il en retard si on se compare à ce qui se fait ailleurs? J'ai entendu justement des initiatives en France, en Europe, on pense au Danemark ou à l'Estonie. Mm-hmm. L'Estonie, est-ce qu'on devrait s'inspirer de l'Estonie, imiter l'Estonie?
Oui. Ben, en fait, l'Estonie, on parle du Danemark, mais effectivement, l'Estonie, je pense, est encore plus avancée, où presque plus de 99% des données sont informatisées. La différence de ces pays avec nous, mm-hmm, c'est qu'ils ont, au long cours, depuis au moins les années 90, des politiques structurelles pour aller faire ce genre de système informatique-là, ce qu'au Québec, on a tardé à faire. Alors, ils ont pris un pas d'avance, entre autres, sur leur politique pérenne dans le temps qui leur ont permis d'arriver là, en termes de données sur la confidentialité, etc. Si on se compare à ce qui se fait ailleurs au Canada, le Québec est clairement pas en avance. D'autres provinces, dont l'Alberta, d'ailleurs, qui a adopté EPIC, ont pris les devants bien avant nous. Donc, les Nord-Américains les Canadiens sont en général en retard, mais le Québec particulièrement, okay, si on se compare à ce qui se fait ailleurs au Canada. Mais c'est rattrapable, mais évidemment, plus on attend, plus les différents systèmes parallèles se sont complexifiés, se sont enracinés, et ça devient d'autant plus difficile de les supplanter par un système unique. Alors, plus on va attendre, plus ça sera difficile, donc il faut le faire, et il faut le faire aussi décentraliser des hôpitaux. Alors, EPIC, c'était beaucoup ça initialement. On veut pas seulement avoir une bonne communication à l'intérieur des services d'un hôpital, mais on veut rejoindre les cliniques, les CLSC, les soins à domicile, on les oublie, mm-hmm, la communication, oui, entre les régions, entre les établissements, vers les centres de réadaptation, par exemple. Et c'est là le nerf de la guerre, hein. C'est qu'on veut pas seulement que le troisième et le quatrième étage se parlent dans un hôpital. On veut que ce soit décentralisé sur l'ensemble des soins que pourrait recevoir un usager.
Entendu. C'est un projet ambitieux. On a aussi un autre projet ambitieux dans le système de santé qui est la Stratégie nationale de la prévention en santé 2025-2035 qui veut faire de la prévention un projet de société. Professeur Lavoimau, quelle est la place de la prévention et des services sociaux dans cette numérisation de la santé? Puis est-ce qu'on ne risque pas peut-être de perdre de vue un petit peu l'humain, le côté humain de la chose?
Oui, ben en fait de ce qu'on a pu de ce qu'on a pu savoir, ce qui a émergé de l'implantation actuelle, c'est que tout ce qui relève des services de prévention, donc de première ligne, mais aussi de tous les systèmes qui se situent, disons, à l'extérieur des pôles que constituent les hôpitaux. Dans les CIS et les CIUS, comme les centres jeunesse, par exemple, ou les CHSLD, dans ces services-là, il semble que ce soit là où le système a le plus de difficultés à s'implanter, où finalement le système qui est déployé par EPIC est moins adapté à ce type de service-là. Puis en fait, on dit qu'en philosophie de la technique, il n'y a rien de plus neutre en apparence que la technique.
Mm-hmm.
Et c'est un des enjeux, en fait, qu'on peut observer, c'est que là, on importe une technologie qui a été conceptualisée, réfléchie sur le modèle américain, hospitalier, privatisé des États-Unis, qu'on essaye d'intégrer au Québec, puis là il y a des accrochages. À terme, ça veut pas dire que c'est pas réglable, qu'il y a pas moyen d'outrepasser ces difficultés, mais le problème, c'est que la particularité des services qui sont offerts dans ce type d'institution là est très très différente de ce qui va être offert par exemple dans un hôpital où on est axé sur un patient qui rentre, qui sort, qu'on peut suivre avec une maladie qu'on espère le plus précise possible, même si on sait qu'aujourd'hui, c'est plus complexe que ça. Mais dans ces services-là, souvent, les problèmes sont, disons, prennent une autre forme, sont souvent plus complexes, sont sociaux, disons. Puis là, il semblerait que le fait que les systèmes ne soient pas adaptés, le risque, c'est que on vienne à croire que ces services-là eux-mêmes, finalement, ne fonctionnent pas. Puis ça va être un des risques, une des choses qui va être à surveiller, à prendre en compte, c'est le fait de est-ce que l'outil s'adapte au service ou est-ce qu'on vient à penser que le service est inadapté à l'outil lui-même? Puis ça, c'est un jeu qui peut être dangereux où on vient à croire que le service fonctionne mal, mais finalement, c'est l'outil qui est inadapté au service lui-même.
Oui. Docteur Jouvet, est-ce que l'outil est prima? En fait, est-ce que l'outil vient en premier de ce dossier de santé numérique? La technologie vient en premier ou est-ce que c'est l'humain? Qui doit s'adapter à qui?
Si on parle de soins intensifs pédiatriques, on est très technologique. C'est un niveau où le patient est entouré de données numériques qu'on collecte.
Et de machines.
Oui. Et donc, du coup, la technologie est en vrai support à la vie. Soutien respiratoire, soutien cardiovasculaire, soutien rénal. Donc, tout ça, ce sont des instruments médicaux qu'on utilise. Ben, de tout temps, on a développé des techniques. Théoriquement, c'est pour aider l'humain à mieux fonctionner. Donc, il faut rester quand même dans cette vision-là. Et je comprends les interrogations qu'il y a du nouveau social, parce qu'on est beaucoup dans les échanges humains. Et la technique, ben, on est là pour rapporter ce qui a été fait. Donc, s'il peut y avoir un petit peu d'écart entre ce qu'on peut offrir pour avoir des données numériques et puis le processus de soins qui, lui, est plus social et en interaction.
Oui, mais qu'est-ce que ça va changer pour vous, ce dossier de santé numérique?
Pour moi, ça va être un peu une régression parce que j'ai déjà un dossier très très spécialisé, qui est exactement fait pour la tâche que l'on réalise dans les soins intensifs, c'est-à-dire que ça permet de collecter l'ensemble des données des instruments médicaux qui sont autour du patient, de les mettre directement dans le dossier. L'infirmière a pu aller noter, comme elle le sait, sur le papier avant, puis ça permet de les montrer d'une façon synthétique. Là, l'outil n'est pas tout à fait dédié aux soins intensifs, il est dédié à un peu tout.
Ça va élargir finalement.
Donc ça va diminuer un peu la performance que l'on a par rapport à ce qu'on a actuellement, mais il va falloir s'adapter. C'est parce que le gain est énorme. D'avoir accès à des données de patients parce qu'il vient de la TUC et puis il arrive sur Montréal, et ben on a les données de la TUC. Hein. C'est quand même important. Là. On échange aussi par téléphone avec les soignants, mais il y a d'autres choses qui sont transférées, qui peuvent être transférées même avant que le patient arrive. Donc on peut adapter la prise en charge. Donc quand on est dans un système de soins aigus, c'est tout bénéfice. Mais il y a cette phase d'adaptation. Et puis il y a cette tendance aussi que l'on a eue, et c'est ce qui nous est arrivé aussi avec le dossier ICCA, c'est qu'on cherche à répondre à toutes les normes. Donc les normes infirmières, les normes de soins, et ce qu'on ne fait pas forcément en pratique courante. Et ça, donc on va enrichir le dossier informatisé de tas de cases à remplir pour pouvoir répondre à ces normes. Est-ce qu'il faut répondre aux normes? La logique veut que oui, et tous les ordres professionnels vont dans cet axe-là. Et donc ça, quand on a fait une étude avant et après l'implantation du dossier informatisé, en chronométrant toutes les tâches que faisaient les infirmières, les préposés, et on a documenté que le temps passé à la documentation par l'infirmière était le même avant qu'après. Malgré le fait que toutes les données des instruments médicaux arrivaient dans le dossier et qu'elles avaient pu aller recopier. Par contre, ce qu'on a montré, c'est que la variabilité entre infirmières diminuait. C'est-à-dire que ça permet vraiment de standardiser les choses et tout le monde fait à peu près la même chose, au bout du compte. Donc voilà.
Donc on en ressort gagnant, c'est ça?
C'est ma vision.
Entendu. Donc merci beaucoup. On était en compagnie du Dr Philippe Jouvet, pédiatre intensiviste au CHU Sainte-Justine et professeur de pédiatrie à l'Université de Montréal, de Myriam Lavoie-Mau, qui est professeure adjointe à l'École de communication sociale de l'Université Saint-Paul, et de Benoît Eppel, le médecin de l'Estrie, qu'on avait déjà invité. On mettra le lien de l'autre émission aussi, si ça vous intéresse. Merci à tous les trois.
Bonne journée.
Merci beaucoup, Isabelle.
Merci. Au revoir.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science, c'est une production de Science Presse avec Radio-VM. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, cette semaine, Fanny Robartcher. La réalisation et le micro, comme toujours, Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la. Vous pouvez aussi suivre la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très très belle semaine à notre antenne.
Jing Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance.